n'est pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rêve de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux. Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu. La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcat capitaliste raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission trans-pédéguine.
Enfin, surtout trans-pédéguine.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors, c'est On n'est pas des cadeaux, bienvenue. Et du coup, d'abord, on va commencer par faire les infos, mais sinon, l'émission, elle est sur quoi ?
Aujourd'hui, on va parler des interventions dans des milieux scolaires pour parler de l'homophobie dans des associations.
Alors, hop, du coup, la première info, c'est un peu chiant, mais alors du coup, il y a une recrudescence de l'homophobie. Par exemple, il y a eu une agression à Paris dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il sortait d'une fête de chez des amis. Un homme et son compagnon étaient agressés par un groupe d'hommes dans le 19e arrondissement de Paris. Rien que la semaine dernière, l'association SOS Homophobie a reçu 60 témoignages. Il est certain que la façon dont se déroule le débat sur le mariage pour tous n'y est pas étrangère. Les dérapages des responsables politiques et la surenchère des opposantes à l'égalité des droits contribuent à créer un climat de haine, même si l'homophobie existait avant et qu'elle ne disparaîtra pas avec une loi sur le mariage. Donc courage à tous nos frères et sœurs, autodéfense et vengeance collective. À Paris toujours, d'ailleurs, il y a eu le printemps des assos LGBT comme chaque année, et juste avant l'événement, le lieu où se déroulait cette rencontre interassociative a été recouvert d'affiches de la manif pour tous. Et pendant ce temps, le mariage est passé en Uruguay mercredi et en France au Sénat ce matin.
Mais la droite, bien sûr, se mobilise toujours, elle ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Et elle passe sur le registre nationaliste. Bourges, qui est une... Elle s'appelle Bourges, oui, qui est une catho traditionnelle de l'extrême droite, veut lancer pour la prochaine manif le nom du printemps français. Voilà, la prochaine manif contre le mariage, gay et lesbien. Ça sera le printemps français, super. Et dans le même registre, il y a Longuet, qui est un sénateur UMP. Il dit que le mariage ne peut être adopté parce que la Marseillaise est un chant d'hétéro et que ce projet est contre la République. Et oui, carrément. Eh ben, il faut croire que le sang impur de la Marseillaise ne concerne pas que les ennemis étrangers à la nation, mais aussi les homos. Et le discours nationaliste ne cherche plus à exclure que les dits étrangers, immigrés, sans papiers, etc., mais aussi les non-hétéros. Bah, moi je me dis que peut-être les LGBT se poseront un peu plus des questions quand ils iront défiler sous des bannières genre « En 2013, je vote ».
On passe à un autre registre, c'est le registre de la prévention, parce que bientôt il y aura l'arrivée des autotests en pharmacie. Après l'avis favorable rendu il y a 2 semaines par le Conseil national du SIDA, la ministre de la Santé a tranché vendredi sur la commercialisation des autotests en France. Donc Marisol Touraine se dit en effet favorable aux tests rapides pour le dépistage du sida. Ces tests salivaires permettent d'obtenir un résultat au bout de 20 minutes et selon le Conseil national du sida, l'introduction en France des autotests permettrait de découvrir 4000 nouveaux cas et d'éviter 400 infections nouvelles chaque année en France. Ensuite, on va parler vite fait d'islamophobie parce qu'il y a eu des tags nazis sur une mosquée à Voiron. Du coup, on s'est dit que c'était important de relayer parce que ça se passait dans la région et qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent d'islamophobie dans la vie, quoi. Du coup, après les mosquées de Contrexville, de Provence et d'Orzoir-la-Ferrière et de Val-de-Reuil, c'est désormais à la mosquée de Voiron, qui est une ville située à 30 km de Grenoble, que c'est une nouvelle fois illustré la lâcheté islamophobe de certains. C'est à la dans la nuit de jeudi à vendredi que les premières personnes venues pour la prière ont découvert avec consternation et indignation la profanation de leur mosquée avec quatre croix gammées d'environ un mètre chacune dessinées à la bombe rouge qui ont été retrouvées sur la façade de la mosquée. Et sinon, la dernière info, c'est sur le travail du sexe. Du coup, il y a eu un communiqué de presse de Kabiria, qui est une association de soutien aux travailleuses du sexe lyonnaise, qui rappelle que en ce moment il y a eu une proposition de loi visant à abroger le racolage public et qui du coup elle a été adoptée le 28 mars au Sénat. Du coup ça semble être le signe d'une préoccupation des pouvoirs publics en faveur des personnes prostituées, mais en même temps que ça se passe, et ben en même temps il y a une répression massive des travailleuses du sexe à Lyon. Donc du coup, parce qu'il y a une grande majorité de femmes qui font du travail du sexe à Lyon dans les quartiers de Gerland et de Perrache, et du coup à Gerland la plupart du temps c'est des travailleuses qui travaillent dans des camionnettes aménagées, et du coup ça fait 10 ans qu'elles sont régulièrement déplacées de quartier en quartier grâce à des arrêtés municipaux de la ville qui interdisent le stationnement de leurs camionnettes. Et du coup, il y a un arrêté municipal qui a été déposé sur ce périmètre. Et du coup, les camionnettes sont mises en fourrière, elles ont des PV, et elles sont fichées à chaque fois qu'elles vont essayer de récupérer leur camionnette. Et du coup, c'est une zone, Gerland, qui est absolument déserte la nuit, à part le travail du sexe. Et c'est pour ça qu'elles se sont retrouvées hyper isolées lors d'opérations policières massives qui ont été répétées depuis le 19 mars dernier. Du coup, il y a eu de nombreux policiers qui ont encerclé la zone, bouclé les rues, effectué des contrôles systématiques de toutes les personnes présentes, hommes, femmes, salariés de l'association en tournée à ce moment-là, etc. L'ensemble des camionnettes a été embarqué à la fourrière, donc ça c'était le mardi 19 mars. Et il y a carrément eu un hélicoptère qui a survolé le quartier. Du coup, je l'ai déjà dit, mais du coup, c'est le fichage auquel elles sont soumises pour récupérer leur camionnette, c'est avec prise de photo, film, prise d'empreinte et la plupart du temps prise de l'ADN. Du coup, c'est vraiment horrible. Et en plus, pour récupérer la camionnette à la fourrière, bah, faut payer un PV qui est incommensurable. Du coup, t'as jamais le temps de faire ta thune, quoi. Et en plus, tu payes. Et sinon, à Perrache, c'est aussi la galère. Parce que les personnes, elles travaillent plutôt à pied, mais elles sont sanctionnées sans arrêt pour prétexte d'infraction pour racolage passif. Donc voilà, dans une France en pleine crise sociale et économique, les prostituées lyonnaises opposent une résistance au quotidien à la répression. Elles luttent pour garder leur emploi et souhaitent le respect de leur existence en tant que citoyennes légitimes et dignes. Voilà.
Et voilà, après ces informations, on va passer au vif de l'émission. Et cette semaine, du coup, parler d'intervention au milieu scolaire contre l'homophobie, contre les LGBT-phobies aussi, on peut dire. Parce que, ben, effectivement, dans ce monde hétéro, avec une éducation et des normes hétérosexistes partout, on se retrouve souvent dans des milieux entre personnes ghettoisées ou qui sortent de la norme, entre transpédéguines par exemple, ou entre meufs. Et comme ça, on se donne de la force et on se prend un peu moins de violence dans ces moments-là. Mais ça peut arriver souvent que moi, par exemple, quand je sors mon nez dehors, ben, je me reprends facilement de la violence dans la tête, dans ce monde sexiste et hétéro. Et que je sais pas forcément toujours m'armer contre ça, ou que je cherche un peu comment répliquer ou répondre à la norme hétéro, ou des idées, des préjugés que je vais entendre partout. Et du coup, une des manières de réagir à ça, ça peut être de faire une des stratégies possibles par rapport à la norme hétéro, ça serait de faire de la pédagogie, de l'éducation de masse, on peut dire aussi, on peut dire que c'est des gros mots aussi, mais par exemple, en allant à l'école où beaucoup de jeunes mineurs sont obligés d'aller pour leur éducation normale et française, et du coup de passer un message qui sorte un peu de ce milieu normal. Voilà, c'est donc un montage là qu'on va écouter, où on est trois personnes qui intervenons par le biais d'associations dans des écoles, dans des collèges ou lycées. Et on parle de nos stratégies, de situations concrètes qui se sont passées, comment on y répond, comment on parle du sexisme et de l'homophobie. Ben voilà, ça ouvre plein de questions, il n'y a pas forcément toutes les réponses, parce que c'est un grand chantier. Et on se retrouve après pour en discuter. Bonne écoute. Après, pour discuter un peu, chacune on fait partie d'associations dans lesquelles on intervient dans des écoles, des lycées, pour parler de l'homophobie à des jeunes. Est-ce que vous voulez vous présenter un peu ?
Ok. Bah, moi, c'est Anouk. Je fais des j'ai fait une intervention, en fait, surtout sur le sexisme et l'homophobie auprès des jeunes, donc dans une classe de 4e. Voilà.
Et moi, c'est Fanny, et du coup, je fais des interventions principalement en lycée sur l'homophobie, et j'en ai fait un peu sur les violences sexistes aussi, en lycée, en collège, par ailleurs.
Moi, c'est Sarah, et du coup, aussi, j'ai fait quelques interventions contre l'homophobie et le sexisme dans des lycées. On pourrait commencer par le déroulé un peu des interventions. Nous, c'est sur 2 heures.
Ouais.
Et tu veux présenter ?
Ouais, allez, c'est parti. En fait, un peu la porte d'entrée, du coup, c'est de parler d'abord de discrimination en général. On commence par faire une espèce de petit brainstorming où on essaye de les faire définir ce que ça veut dire discrimination.
On demande c'est quoi les discriminations, et du coup, il y a plein de discriminations qui sont nommées, complètes, avec des discriminations auxquelles ils pensent pas forcément, genre le validisme, l'âgisme, voilà. Mmh. Et après, on demande c'est quoi les discriminations les plus graves, pour dire qu'elles sont toutes aussi graves.
Et après, on se centre plus sur qu'est-ce que ça veut dire homophobie, on définit un peu les termes LGBT, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'ils mettent derrière, est-ce qu'ils connaissent ou pas. Et après, on utilise un court-métrage qui s'appelle Omar, ou un court-métrage qui s'appelle Pauline, mais principalement Omar, parce qu'il marche quand même un peu mieux que Pauline, qui a été fait par l'INPES, et qui permet d'avoir une discussion surtout sur les conséquences de l'homophobie, quand on est jeune. Et après, on fait un travail sur les insultes homophobes et un travail sur les préjugés et stéréotypes envers les lesbiennes et les gays.
Après, on en discute avec les idées et les remarques des jeunes, en disant un peu qu'on en pense, quoi, tout ça.
Ouais, on essaye de partir de ce qu'ils disent et de ce qu'elles disent.
Ouais, bah nous, quand on intervient, en fait, c'est sur toute une journée. On est là de 8h du matin à 4h30, donc avec une pause le matin, une le midi et une l'après-midi, pour pas que ce soit non plus trop lourd. Il y a des choses qui se retrouvent. Donc notamment en fin de journée, on projette aussi Omar pour discuter avec l'homophobie, tout ça. Mais nous, ça se déroule un peu autrement, c'est-à-dire que bah il y a des jeux en fait qui ont été créés dans l'asso où je bosse, et on commence la journée plus justement sur les notions de stéréotypes. En fait, on leur fait par exemple, quand on arrive en fait dès le début, du coup on discute tout ça, et en fait on dispose de plein de jouets au sol. Et en fait, on leur fait choisir un jouet avec lequel ils jouaient souvent quand ils étaient petits, qu'ils auraient aimé avoir mais qu'ils n'ont pas pu avoir pour différentes raisons. Du coup, c'est des images, en fait, ils viennent nous les donner, donc ça permet aussi qu'ils puissent les donner de façon cachée, un peu anonyme. Et ensuite, en fait, c'est-à-dire que tous les garçons viennent le donner à une personne, toutes les filles viennent donner à une autre personne, et en fait, on met en fait les jouets que les garçons, avec lesquels les garçons jouaient quand ils étaient petits, et les jouets avec lesquels les filles jouaient quand elles étaient petites. Et du coup, on essaye de réfléchir déjà autour de ça, en fait, de comment, quand on est tout petit, en fait, on est conditionné. Enfin, on essaie de nous conditionner à certaines choses, parce qu'on se rend compte souvent que dans les jouets des filles, il y a pas mal la ménagère, le poupin, enfin des trucs vachement normés, tout ça, et que chez les garçons c'est tout de suite des trucs vachement plus créatifs ou vachement plus intellectuels, vachement plus scientifiques, genre le petit laboratoire, tout ça. On commence la journée un peu là-dessus, sur réfléchir que depuis tout petit on est un peu conditionné, enfin que la société nous conditionne dans certains rôles, tout ça, et pour au fur et à mesure de la journée parler du sexisme, des rapports filles-garçons, de comment eux aussi peuvent vivre, parce que souvent c'est des ados, tout ça. En fait, on essaie toujours de renvoyer la balle avec leur réalité à eux. C'est-à-dire de se dire, eux, quand ils achètent un jouet à leur petit cousin ou à leur petite cousine, pourquoi ils vont acheter ça ou pourquoi ils vont acheter ça, en fait. Donc, c'est là où ils se disent, parce que ça leur plaise. Ah ouais, mais non, en fait, des fois, ils parlent même pas et je lui achète déjà ça. Pourquoi, en fait, je lui achète ça? Et du coup, c'est là où, sans employer des termes comme hétéronormé et tout ça, parce que, c'est pas forcément le but, c'est quand même dans cette logique-là, et qu'on les fait réfléchir, quoi, de se dire que la société nous conditionne déjà dans ces normes-là, alors qu'on a même pas, enfin qu'on est tout petit, des fois qu'on parle même pas, et qu'on pense que bah en fait parce qu'on est un petit garçon, on va aimer jouer à ça. Et du coup c'est vrai que ça les fait botiquer quoi, de se dire ah ouais bah comment ça se fait qu'on est là aujourd'hui en fait. Et on finit donc la journée, il y a aussi un jeu sur le mur des insultes. Ouais. Où justement on leur fait dire bah on leur fait écrire en fait une insulte qu'ils disent souvent, qu'ils entendent souvent. Puis pareil quoi, après on revient un peu dessus quoi, de on se rend compte que souvent bah les insultes sont à caractère homophobe ou en tout cas à l'encontre des filles ou enfin des gens féminines, et que de toute façon tout est lié aussi, enfin que de toute façon souvent même les insultes homophobes sont sont féminisées. On discute un peu de ça avec eux et on finit sur bah ce court-métrage justement de l'INPES Omar, qui fait un peu choc en général dans les classes quand on le projette pour parler plus clairement de l'homophobie et tout ça. Et du coup on termine la journée par un peu une radio libre où du coup on leur fait poser des questions de façon anonyme, et on s'est vraiment instauré un truc avec eux où il n'y a pas de tabou et où du coup ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut, que ce soit sur la sexualité ou autre. C'est vrai que souvent on a des questions assez intéressantes et où on voit que ça a fait travailler aussi dans la journée quoi. Et vous, quand vous intervenez, il y a des profs ou des gens du corps éducatif qui restent avec vous?
Ouais. Il y a un ou une adulte de l'établissement obligatoirement, mais pas forcément un prof, ça peut être
infirmière.
Un autre personnel, ouais.
Alors que nous on essaye de demander un maximum aussi qu'il n'y ait personne de l'établissement, pour vraiment libérer la parole, parce que même quand c'est l'infirmière ou quand c'est la documentaliste, bah, ils ont toujours l'impression que c'est quand même rattaché au prof et que ce qu'ils vont dire va pouvoir avoir des répercussions. On essaye, même si des fois il y a quand même un prof ou une infirmière qui peut venir dans les inters, mais c'est vrai que nous on préfère quand il n'y a pas de...
Mais je pense que les deux sont pas mal, mais nous pour l'instant on est quand même une petite asso et on n'a pas forcément la même légitimité que vous, et tant qu'on n'a pas encore d'agrément en fait éducation nationale, donc tant qu'on est dans cette démarche de recherche d'agrément et tout ça, c'est plus simple pour nous d'avoir un œil adulte de l'établissement pour construire notre légitimité petit à petit, et après peut-être on pourra changer notre mode de fonctionnement, mais pour l'instant ça fonctionne comme ça.
Pour cette histoire d'agrément, c'est vrai que du coup nous c'est compliqué, il y a cette histoire que pour avoir un agrément il faut déjà être aller à l'école, faire des interventions, mais pour faire des interventions, il faut avoir l'agrément. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Nous, dans les interviews qu'on fait, il y a toujours ce truc au début déjà de dire en fait que c'est une intervention participative, qu'on attend leur participation, qu'ils sont pas là pour écouter pendant que nous on fait un cours, que c'est pas du tout ça, et vraiment d'échanger, de discuter et de réagir par rapport à ce qu'ils vivent, leurs idées, et puis nous aussi nos idées, mais aussi en amenant des notions et des concepts sur les trucs d'homophobie, de lien avec le sexisme. Par exemple, déconstruire vraiment des insultes comme enculé, bah pourquoi ça devient une insulte? Bah parce que c'est une pratique sexuelle où l'homme est dominé sexuellement, entre guillemets bien sûr, et que pour un homme c'est humiliant, ou on devrait toujours être dominant, actif sexuellement, mettre en avant que toutes les insultes concernant des homos, elles sont au féminin, et pourquoi être au féminin ça devient une insulte, le lien avec le sexisme sur ça quoi.
J'ai fait une deuxième inter, mais pas sur le même modèle, parce qu'on allait à la semaine de l'égalité à Saint-Étienne, et du coup on faisait des interventions d'une heure et demie avec des classes qui passaient comme ça, qui roulaient. Et du coup, on faisait qu'un jeu avec eux. Et avec une classe de quatrième, on a fait ce jeu, de troisième, on a fait ce jeu-là, le mur des insultes. Les insultes sont sorties, c'était beaucoup salope, pute. Et en fait, à un moment, je leur ai dit, mais c'est quoi une pute? Vous savez, genre, c'est une meuf qui se fait tourner. Et du coup, j'étais là, ok. Et en fait, sans vouloir rentrer après, en fait, on est rentré après plus dans le débat. Mais au début, je leur ai dit, et alors on appelle comment un mec qui se fait tourner? Parce que ça, en fait, il n'y a pas d'insulte. Enfin, un mec, ça se fait pas tourner. Enfin, un mec qui a plein de meufs, c'est bien, tu vois.
Un beau gosse.
Et c'est un beau gosse, tu vois. Et du coup, c'était marrant parce que le fait de leur poser cette question-là, après, il y avait le groupe qui était un peu divisé en mode, ah ouais, mais attends, c'est pas normal, en fait. C'est vrai qu'on s'était jamais rendu compte. Et j'étais là, par exemple, une salope, parce qu'il y a l'équivalent, c'était là, ouais, un salaud. Je sais pas, est-ce que vous l'employez? Enfin, tu vois, dans le même sens, quand vous dites à quelqu'un que c'est un salaud ou une meuf que c'est une salope, ça, ouais, non, pas du tout et tout. Et surtout, les nanas se rendaient compte qu'en fait, il y avait aucune insulte à l'encontre, enfin masculine en tout cas, pour dire enfin ses équivalents masculins.
Et ce que je trouve pas évident, c'est que souvent dans les groupes, il y a quand même souvent soit une majorité, soit quelques mecs qui prennent pas mal de place, qui sont dans un comportement vachement d'homophobe assumé, de bah oui, bien sûr que les meufs c'est des salopes quand elles baisent et que les mecs c'est pas pareil. Je sais pas, moi j'essaye de mettre en avant que non, pas forcément, ou est-ce que tout le monde pense ça, ou mais est-ce que vous avez des stratégies par exemple par rapport à des comportements clairement sexistes ou clairement homophobes?
Moi, je trouve que ce qui marche bien, c'est vraiment de jouer, la contradiction dans le groupe. Enfin, c'est très rare s'il y ait des propos comme ça qui sortent, qu'il y ait tout le monde dans le groupe qui les approuve. Donc vraiment de faire naître le débat et de faire naître la contradiction, ça permet de déjà remettre la personne à sa place par le groupe. Et après, si une personne sort vraiment trop des limites et devient agressive ou quoi, je pense qu'on peut se permettre de l'arrêter, de la sortir. Ça m'est jamais arrivé, hein, heureusement, mais je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus tout accepter en intervention.
On n'a pas forcément toutes les mêmes techniques et les mêmes idées. Je remarque que dans l'assaut, il y a des personnes qui sont plus sur un discours légaliste. Par exemple, amener l'information que des actes de violence qui sont homophobes sont punis d'amendes de 45 000 euros, c'est ça?
On sait jamais. Je connais exactement. Pas bien, j'ai pas fait mes révisions, mais ils sont plus punis que des actes qui seraient pas à caractère homophobe, en tout cas.
Voilà, d'amener cette notion-là que vraiment il y a une punition légale, que c'est puni légalement que d'être homophobe. Et du coup, ça, je pense que ça amène une limite sur ça, c'est, on a le droit, on n'a pas le droit quand même, mais que par ailleurs. En fait, moi, j'ai envie de compléter les choses. Je trouve que directement, c'est pas évident de démonter ce genre d'idées reçues.
Je pense que c'est plus intéressant d'essayer de faire réfléchir et comprendre par eux-mêmes les jeunes plutôt que de leur apporter la loi sur un plateau et de leur dire c'est comme ça, et la loi dit ça. Après, la loi, elle est intéressante quand même à rappeler, je pense, notamment dans les cas où t'as quelqu'un en face de toi qui est complètement borné et qui voudra pas se départir de son discours homophobe et que peut-être il réfléchira plus tard ou elle réfléchira plus tard, mais là, elle est coincée. Et c'est coincé. Je trouve ça quand même intéressant de pouvoir dire c'est comme ça, c'est puni par la loi et voilà. Moi, ça me dérange pas de le faire en tout cas.
Par exemple, une fois, ce que j'essayais de mettre en avant, c'est tu penses comme ça et du coup de dire ça c'est de la discrimination en fait. C'est le rejet, l'exclusion d'une personne. Pourquoi? On sait pas. Il n'y a pas d'argument. Et en fait, la personne, elle n'a rien fait, juste elle est une personne, soit de couleur, par exemple, si c'est du racisme, soit homo. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est de dire les effets. Et ouais. Du coup, le manque de confiance en soi, jusqu'à l'exclusion, jusqu'à se droguer, tout ce que tu veux, jusqu'au suicide. Et de mettre en avant les conséquences que ça peut avoir. Tous les mots qu'on va utiliser quotidiennement, enculé, etc., les insultes, qui sont souvent pas réfléchies, en fait, elles veulent dire des choses qui vraiment discriminent et font du mal à des personnes. Je pense que ça fait quand même réfléchir.
Moi, quand on parlait de la loi, en fait, je pense que c'est bien, mais que ça marche pas à tous les coups, parce que, moi, quand j'ai intervenu, par exemple, j'ai intervenu au collège Mermoz, parler du viol, parce qu'en fait, il y a un jeune qui a sorti que si une fille provoquait, c'était normal qu'elle se fasse violer. En fait, avant, justement, de rentrer dans le débat, j'ai voulu faire un rappel à la loi, de lui dire que juste le viol était puni par la loi, et m'a répondu ouais, comme fumer du hashish. Et en face à ça, là je me suis retrouvée un peu en mode ouais. Du coup, c'était ouais, ok, je te rappelle la loi, même moi je la suis pas tous les jours, toi tu la suis pas sur d'autres choses, et on va être d'accord. Et la loi, il y a du bon et du mauvais, c'était pas vraiment un terrain dur, tu vois, sur lequel je me sentais de m'appuyer. C'est pour ça qu'on est parti après dans un autre registre que celui de la loi. Ou en fait, parce qu'au début, quand il a dit ça, tout le monde était d'accord, filles et mecs confondus, que si une fille provoquait, c'était normal qu'elle se fasse violer. Et je suis plutôt partie dans un truc où j'essaie de faire définir ce que voulait dire provoquer dans sa bouche à lui. Après, j'ai fait définir aux meufs que pour elles, ça voulait dire provoquer. Et on se rendait compte en fait qu'elles n'avaient pas du tout la même définition de provoquer que lui. Et après avoir donné leur définition, ils n'étaient plus du tout d'accord. Et les meufs n'étaient plus du tout d'accord avec lui de dire que si la nana, elle met une jupe et qu'elle vient parler à un mec, non, elle n'est pas en train de le provoquer. Enfin, tu vois, alors que pour lui, c'était ça en fait, provoquer. Et du coup, rien qu'en partant de là, après, on a pu vraiment débattre aussi sur. Surtout la notion de consentement, on est vraiment parti loin après dans ce débat-là avec toute cette classe, quoi. Mais c'est vrai quoi, sur le truc de la loi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais. Ouais. Quoi.
Nous, à la fin des interventions, il y a un truc une proposition de saouter, de dire qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on est hétéro, homo, bi, et qu'ils puissent nous poser des questions. C'est vrai que nous, dans l'asso, ça nous a posé question, ce truc. On se demandait, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Que ça peut mettre hyper mal à l'aise de saouter ou... Mais aussi que ça amène un truc d'échange, de confidence sur nos situations, si on est gouine ou dans l'asso. Mais du coup, moi, j'étais pas à l'aise par rapport à ça, mais j'ai décidé de jouer le jeu quand on a fait les interventions. J'ai dit que j'étais gouine. Et par exemple, quand on m'a posé des questions, mais t'as toujours su que t'étais lesbienne ou des choses comme ça, j'ai essayé de leur envoyer la balle, et toi, t'as toujours su si t'étais hétéro, ou des choses pour mettre en avant aussi que, comme on est dans une logique que tout le monde est hétéro, la question c'est, ça devient, mais en fait tu savais que t'étais lesbienne, mais qu'en fait on se pose jamais la question, mais est-ce que je suis hétéro, est-ce que j'ai toujours su que j'étais hétéro.
Du coup à la base c'était un peu pas une obligation, mais ça faisait partie du corpus de l'intervention, et systématiquement les deux intervenants intervenantes, puisqu'on intervient en binôme, faisaient ce truc à la fin. Et il y avait même une modalité où il y avait une espèce de vote de la classe, parce qu'en fait on fait un travail, on leur fait faire une grille qui ils nous décrivent la lesbienne parfaite et l'homo parfait, enfin le mec, le gay parfait, parfait dans le sens, quelle est votre représentation type d'un homo.
Et du coup,
le modèle, quoi.
À quoi ressemblerait une lesbienne.
C'est ça. Et du coup, ça fait une espèce de petit portrait type. Et selon vous, d'après ce portrait, est-ce que nous, on est ou pas, enfin, quelle catégorie on intervient et on appartient. Et ça permettait, dans une certaine mesure, de déconstruire certaines choses. Mais c'est absolument pas parfait comme logique, parce que si tu colles à la grille stéréotypique, ça casse tout.
C'est moi qui interviens, en fait.
Du coup, ça pose plein de questions. Donc, ce truc, on l'a fait sauter et mis au choix des personnes qui interviennent. Du coup, moi, je fais pas le truc du vote parce que ça me convient pas et que je trouve ça un peu.
Le truc du vote, tu veux expliquer ?
Oui, pardon, le truc du vote, c'est-à-dire, moi, je me mets devant la classe.
Un peu chaud, quoi.
Ouais, voilà. À votre avis, votez. Alors, je suis lesbienne, qui pense ça, machin.
Oh là là.
Il y a des gens qui sont très attachés à ça, hein, et je peux
c'est
le comprendre.
Des hétéros,
non ? Non, non, non. Pas forcément. Du coup, on l'a mis au choix des intervenants, intervenantes. Et moi, je fais juste le truc de dire, comme toi, en fait, je suis lesbienne, on peut échanger, ils nous posent leurs questions anonymes, machin, et ils peuvent te poser des questions sur ta vie, et tu choisis de répondre ou pas aux questions selon si ça te plaît ou pas. Et on leur dit en général, mais ça dépend peut-être des gens, qu'on répondra pas aux questions sur la sexualité. Mais après, il y a des gens qui le font, enfin voilà.
C'est-à-dire sur la sexualité.
Sur notre sexualité. Okay.
Oui, sur des questions intimes ou provoques, tu vois.
Ouais.
Il y en a qui, clairement, qui, voilà, de coup, de poser des limites aussi, je suis pas là pour répondre à tes questions provoques, quoi.
Ouais. Quand même, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait une personne qui soit devant une classe dans laquelle il y a potentiellement des jeunes qui se posent des questions et qui disent, moi je suis lesbienne et tu vois, je le dis devant tout le monde et ça va, ça se passe bien, ou ça se passe pas bien, mais en tout cas je suis là, c'est comme ça, et ça montre que c'est possible et ça montre qu'on peut en parler et ça montre, voilà, je trouve que ça donne, ça peut donner un référent positif. Après, on peut questionner la notion de référent, mais ça peut donner un référent positif, je trouve ça intéressant.
Ouais, sur cette question de saboter, mais c'est vrai que je l'ai pas vécu, parce qu'en fait la question qui me pose en général, plutôt genre t'es une fille ou un garçon. Ils me demandent pas, genre. Et alors, il y en a qui osent le demander en plénière, en grand groupe, et il y en a d'autres qui me le demandent en off, genre au moment de manger ou à la récré, ou alors qui vont même le demander à une collègue, genre mais c'est une fille ou un garçon et tout. Et du coup, j'ai plus un débat sur eux, sur qu'est-ce que c'est que d'être une fille, qu'est-ce que c'est que d'être un garçon, et je pars de l'intervention sans leur dire si je suis une fille ou un garçon. Et du coup, ça les perturbe vachement. Moi, il y en a un qui m'a suivi, quoi, à la fin où je partais, et il m'a dit, mais t'es une fille ou un garçon, quoi. Et j'étais là, dans ce que tu m'as dit pour toi, de ce que c'est qu'être une fille et de ce que c'est qu'être un garçon, je suis ni l'un ni l'autre. T'étais là genre, non, mais t'as une chatte ou... J'étais là, être une fille, c'est avoir une chatte. Je suis une fille, alors, tu vois.
Et par rapport au truc de modèle dont tu parlais tout à l'heure, c'est un peu l'idée de dire, c'est quoi les idées préconçues de comment est un gay, comment est une lesbienne. C'est dire... aussi, est-ce qu'il y a des métiers dits de gays, ou des activités, mais c'est aussi pour le déconstruire, en fait, et dire pourquoi on pense que tous les gars qui sont coiffeurs sont pédés. Et j'y arrive pas toujours, mais pour moi c'est arrivé à un truc de, mais si tout le monde pense ça, pourquoi les gars qui sont pédés ils vont faire coiffeur? Est-ce que c'est parce que tout le monde pense qu'ils le sont qu'ils vont le faire, et que finalement c'est plus les idées, et voilà, en revenir à que c'est une question de société, en fait, une question sociale qui dit tel comportement, c'est un comportement de mec, et tel autre comportement, c'est un comportement de PD, mais les PD sont des mecs aussi, mais c'est pour dire les a priori. Mmh. Et du coup, c'est plus les a priori qui font tomber dans tel ou tel comportement que vraiment un truc qui serait naturel.
Mais moi, j'ai eu une discussion comme ça avec une collègue intervenante qui, du coup, tu sais, en fait, à force de déconstruire justement ces stéréotypes de la lesbienne qui a les cheveux courts, qui est sportive, du PD, qui est cela, à trop déconstruire, ça en arrive en fait à invisibiliser limite et à dire qu'en fait du coup la lesbienne aux cheveux courts ça existe pas, ou enfin tu sais de et du coup c'était, elle disait ouais mais c'est hyper dur en fait de trouver cette juste limite de on déconstruit certaines choses Mais en même temps, on n'a pas envie de dire que la lesbienne aux cheveux courts, c'est la mauvaise lesbienne, enfin, tu vois, et que celle qui a les cheveux longs, bah, c'est la bonne lesbienne, parce que du coup, elle rentre pas dans les clichés, tu vois. Et pareil, quoi, et que du coup, la grande folle, eh ben, c'est le mauvais PD qui veut trop se montrer, alors que le bon PD, ce sera celui qui sera médecin et bien rangé. C'est aussi comment réussir à déconstruire certaines choses sans rentrer, enfin, sans faire l'effet inverse, en fait.
Des fois, c'est pas évident, tu sais pas si tu renforces les stigmates ou si tu les déconstruis. Et que moi, il y a des moments, ça me mettait hyper mal à l'aise, j'étais pas convaincue de la démarche dans un truc de dire, de faire sortir les stéréotypes. Et qu'en fait, j'étais pas sûre qu'on les déconstruisait. J'avais peur de renforcer à fond ça, quoi. Et ça me faisait hyper peur, quoi.
Oui, et puis qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce que nous, on a déconstruit ? Est-ce qu'ils vont pas plus retenir ce qu'eux, ils ont dit ? Parce que, voilà, avec l'adrénaline du fait de parler, tu retiens plus ce que tu dis, toi, des fois aussi. Donc, des fois,
C'est pour ça que je trouve qu'une analyse sur à la fois la norme hétéro, le sexisme lié, quoi, c'est hyper indispensable d'essayer de les amener. Pour pas juste en rester à des idées de stéréotypes qu'on apprend, quoi. Je pense que c'est un truc qu'on essaye de faire dans les interventions, de dire que du coup il y a différentes stratégies et que Omar, dans le court-métrage, c'est un gars qui a ses potes, qui est un peu leader, qui se protège de l'homophobie en se cachant et du coup qui se montre comme un mec viril et tout ça. Et qu'à l'inverse, son copain qui est discriminé, eh ben, il est traité comme une femmelette, etc. Et du coup, de bien montrer que, ben oui, il peut y avoir une stratégie de se montrer comme un vrai mec qui assure, mais que ça devient une stratégie et il n'y en a pas un qui a raison et l'autre tort, juste c'est des stratégies par rapport à une société hyper, hyper normative et des idées normatives sur c'est quoi un mec, c'est quoi une femme, quoi.
Et tu vois, justement, dans ces courts-métrages de l'INPES, en fait, j'ai plein de choses à redire sur ces courts-métrages qui m'énervent, en fait, mais vraiment. Notamment le fait que Omar, ce soit un noir, qu'il soit dans une cité, et que, enfin, tout ça, tu sais, ça rentre vraiment dans un truc, genre, enfin. Moi, je sais que j'ai longtemps discuté, quoi, j'étais pas trop chaude en fait pour les passer en inter, puis en même temps on me disait ouais, mais on n'a pas forcément d'autres supports qui sont mieux faits en fait. Enfin, je trouve que ça rentre dans d'autres clichés qui sont aussi horribles, justement de dire que c'est que dans la cité qu'il y aura de l'homophobie, qu'on a bien pris un noir pour vous montrer que non, c'est pas un truc de blanc. Enfin, tu sais, genre, je trouve qu'il y a plein de trucs comme ça.
Bah, moi au début, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça horrible pour cet aspect là, hyper stigmatisation des cités avec du racisme et tout. Et maintenant, je suis plus nuancée. Je préfère dire après, mais en fait, ça se passe dans tous les milieux sociaux aussi. Et ça réitère des stigmates de dire ça se passe dans les cités. En tout cas, je trouve que ça permet pas mal de montrer ces trucs de sexisme, notamment, et de comment entre mecs ils sont, et qu'à la fois ils sont dans des trucs de racisme, de sexisme avec les meufs qui sont à côté, et qu'il y a deux PD, et comment un y passe, l'autre il passe pas.
Mais c'est vrai que oui, du coup ça fait parler, parce que enfin moi c'est vrai qu'ils ont eu des réactions genre ah non, mais c'est un acteur en plus, il est Renoir, ça, l'homosexualité c'est un truc de blanc, c'est pas possible, puis de toute façon il joue au foot, même s'il sort des trucs comme ça un peu genre trop grave, tu vois, genre tu peux rebondir. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui était, enfin pour le coup, nous à Mermoz, enfin c'était beaucoup, enfin voilà, beaucoup des rebeux ou des Renois, enfin les jeunes dans la classe, quoi. Et c'était clair et net, quoi, genre c'était non mais ça existe pas dans les cités, c'est pas possible, il y a pas de Renois qui sont pédés, c'était et même à la fin de la journée, ils avaient, enfin tu vois, ils voulaient pas en démentir, quoi. Ça c'était niet, quoi. Ils nous sortaient un truc genre quand c'est loin d'eux, en fait, à la limite ça les dégoûte, mais c'est pas grave, tu vois, c'est loin. Mais si c'est proche, genre, ils ont peur, en fait, tu vois. C'est vraiment de la peur, parce qu'ils nous disaient, genre, ah non, mais moi, j'ai pas envie qu'ils me sautent dessus, j'ai peur qu'un jour, ils soient en manque. Tu vois, ils emploient même le terme, j'ai peur, quoi, tu vois. Genre, j'ai peur qu'un jour, ils soient en manque et qu'ils me sautent dessus. C'est vrai que, bah, au moins, ça permet de discuter, après, derrière, de tous ces trucs, justement, de peur, qui entraînent, bah, justement, tout ce qui est discrimination, tout ça, quoi. Fin...
Et sur la fin du court-métrage, Omar, il se barre, et il y a un pote qui le soutient, et puis son autre pote qui dit, vas-y, ta gueule, t'es pédé, toi aussi. Du coup, moi, j'aime bien revenir sur ce moment-là et dire, mais comment ça pourrait se passer différemment, et est-ce que les copains ils pourraient soutenir, qu'est-ce que ça changerait, et questionner la solidarité, en fait.
Ouais, carrément, il y a ça, il y a aussi le truc de la voisine. Dans Omar, il y a une voisine qui est super sympa avec lui, qui lui dit vas-y, encourage mon fils Bouffon, au foot, ouais. Ouais, voilà. Et dès qu'elle entend que du coup voilà, et eh ben elle, je sais pas, elle le regarde méchamment, ou elle lui claque la porte, ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Et de voir le changement de comportement, bah, de ses potes et de la voisine, c'est ouais, c'est des trucs qui sont intéressants à reprendre avec eux. Et comment vous réagiriez des fois ça fait un peu flipper quoi, mais après bon, il y a aussi le côté provoque, il faut aussi prendre du recul par rapport à ce qu'ils disent en inter, parce que des fois
il y a l'effet de groupe.
Voilà, il y a l'effet de groupe.
Mais nous, c'est vrai que enfin on se rend compte que l'effet de groupe il est vraiment hyper présent, notamment parce qu'en fait Omar, c'est le dernier chose qu'on fait avec eux avant les questions, et en plénière ils sont vraiment hyper provoques, ils sortent vraiment des trucs hard et tout, et derrière en fait sur les questions, et ben en général déjà t'as la moitié des questions en fait qui sont autour de l'homosexualité, section de genre mais pourquoi ils se cachent, mais comment ils font pour faire l'amour, mais c'est possible vraiment d'être amoureux. Nous, on a même eu deux questions qui étaient et après tout ça, moi, comment je peux faire pour révéler mon homosexualité. Ouais. Des trucs où du coup tu te dis que en grand groupe ils font vraiment les kikos quoi, et que derrière je pense que il y a quand même plein de questions qui cogitent.
Et puis c'est vrai qu'on passe toujours celui d'Omar et jamais de celui de Pauline.
Ouais.
Et c'est vrai que Pauline, il est peut-être moins dynamique et tout, mais moi ça me questionne aussi sur l'invisibilité de la lesbophobie, parce que du coup on parle toujours aussi que des mecs, et du coup après je prends hyper beaucoup du temps à parler de la masculinité, du virilisme et tout, et que la sexualité féminine ça passe vachement à travers, et du coup j'essaie toujours aussi de placer un mot pour dire la sexualité féminine, ça a toujours été invisibilisé. On pense que les meufs, elles n'ont pas de sexualité, qu'elles sont là que pour satisfaire les mecs. Et du coup, la lesbophobie, on n'en parle pas. D'ailleurs, on dit toujours homosexuel, mais lesbienne, ça passe à travers, quoi, souvent.
Mais du coup, on a discuté avec pas mal d'intervenants et intervenantes. Et c'est marrant, mais ils choisissent Omar ou Pauline, pas en fonction, en fait, de ce truc de c'est une fille ou c'est un garçon, mais plutôt en fonction du. De la ville, en fait, enfin, du contexte dans lequel ils vont intervenir. C'est-à-dire que quand ils sont en ville, en fait, souvent ils projettent Omar, et quand ils sont en campagne, ils projettent Pauline. Parce que du coup, genre, ils disaient, ouais, quand on a projeté Omar dans les campagnes profondes, c'est tellement loin de leur réalité que de toute façon, ça fait pas réagir. Alors que quand on projette Pauline, qui a ce contexte familial où elle s'est fait jeter, enfin, que c'était un petit village, que du coup, elle a dû partir parce que c'était une pression et tout, c'est plus proche de leur réalité, de ce qu'ils vivent au quotidien, et ça les fait plus réagir.
Aussi, j'ai vite fait dit qu'on parlait des bisexuels. Et moi, j'essaie de jouer sur le truc de justement de parler de qu'en fait, on n'est jamais sûr forcément de sa sexualité. On peut se poser des questions. Et s'il n'y avait pas une telle forte stigmatisation, peut-être au lycée ou à n'importe quel âge, on peut aussi vivre des expériences. Et que c'est pas pour autant qu'on est lesbienne ou gay, en fait, que ça se décide ou ça se sait plus tard. Mettre en avant aussi, on peut être bi en fait, et ça amène à un truc plus oui, c'est cool, peut-être je peux avoir une expérience dans ma vie, et ça veut pas dire je suis ci ou ça. Et...
Nous, on essaye de rester un peu dans la salle en fin d'intervention et de leur dire en début d'intervention, on reste à la fin si vous voulez discuter d'un truc personnel ou pas personnel. Et aussi de leur laisser l'info qu'on a des permanences d'accueil et d'écoute.
Quoi. On a des dates de permanence et puis on donne dès le début notre contact. Ça fait un truc où t'es pas obligé de t'outer, tu peux après prendre contact. Du coup, pour revenir un peu sur les associations... Est-ce que vous voulez un peu revenir pour dire si en fait il y a un discours commun collectif, ou comme tu disais tout à l'heure, on a un peu aussi chacune nos expériences et nos manières de dire les choses. Est-ce qu'il y a des discussions au sein de l'asso sur qu'est-ce qu'on dit, comment? Nous, on peut dire qu'on a une formation chaque année qui est proposée, et que il y a au moins l'obligation de passer par cette formation et du coup le dérouler en commun pour pouvoir faire des interventions après.
Ouais, et l'observation d'au moins une intervention derrière avant de se lancer soi-même. Et il y a quand même vraiment une trame commune qu'on a établie en collectif, du coup, de trucs sur lesquels on s'est mis d'accord. Par exemple, quand on définit homophobie, quand on définit LGBT, tout ça, on s'est vraiment mis d'accord sur des termes à utiliser, sur lesquels on a beaucoup pinaillé et beaucoup travaillé pour faire attention aux trucs. Et après, c'est vrai qu'on a toujours une marge de manœuvre. Il y a quand même une trame commune, quoi.
Ben, nous, c'est pareil, en fait. Il y a une formation de 4 jours pour intervenir sur sexisme, homophobie. Et effectivement, il y a une trame commune, notamment le déroulement de la journée avec les jeux qui sont proposés. Il y a effectivement les définitions de discrimination, de stéréotypes, enfin de trucs sur lesquels on est tous d'accord. Après, je pense franchement que d'une intervenante ou d'un intervenant à l'autre, ça change vraiment le déroulé de l'intervention. Ouais. Du coup, je pense vraiment que d'une personne à l'autre, l'interprétation du jeu, le déroulé, la discussion qu'il y a derrière, parce que c'est surtout en fait, les jeux, ils sont là pour amener la discussion et le débat après avec les jeunes. Et du coup, le débat, c'est un peu du direct. Enfin, tu vois, genre, t'as pas de discours préconçu, en fait, à laquelle tu vas répondre, parce que ça dépend de où les jeunes vont, que tu vas répondre en fonction. Je pense vraiment que ça dépend des personnes qui interviennent, quoi. Ouais. Notamment, dans ces 4 jours, on a aussi fait toute une après-midi sur les transidentités, qui sont aussi vachement souvent invisibilisées, en fait, dans ces inters, quoi. Enfin, on parle de sexisme, d'homophobie, on parle pas du tout de transphobie, en fait. Et du coup, c'est aussi comment réussir à en parler un peu dans ces inters. Et pour en parler, faut savoir un minimum de quoi tu parles.
Nous aussi, on parle de la transphobie et de la transidentité un peu.
Ouais, du coup, on complète la formation sur les interventions par 2 soirées avec Chrysalide. Et du coup, comme ça permet d'avoir des apports aussi. Mais c'est vrai qu'on en parle quand même une toute petite partie de l'intervention. Quoi. Après, en 2 heures, c'est super court. Il faudrait faire une journée, voire plus. Ouais.
Je leur ai demandé ce que c'était qu'un stéréotype. Ils ont répondu que c'était une femme qui pouvait pas avoir d'enfant. Elle a dit non, ça c'est stérile. C'était marrant.
Ouais, moi je pense aussi au rapport qu'on a avec les adultes de l'établissement, justement. Bon, bah vous les avez pas avec vous, mais nous on les a. Et des fois on se dit vraiment que c'est vraiment important ce qu'on fait. Hein. Mais quand on entend ce que disent les adultes à côté, on se dit vraiment qu'on a peu de chance d'aboutir à quoi que ce soit, parce que du coup. Il y a une incohérence entre le fait de nous faire venir, de nous faire intervenir. Ah, c'est bien ce que vous faites. Hein. Et puis après, des adultes qui vont complètement casser, juste par une remarque, tout le travail qu'on a essayé de faire pendant l'intervention. Genre, je poste un truc, c'était avec une autre asso, mais on intervenait sur les violences sexistes, justement. Et donc, on faisait un espèce de jeu. Et donc, il y avait plusieurs équipes, avec des équipes de filles, des équipes de garçons, des équipes mixtes. Et l'adulte qui était avec nous a dit, bien sûr... On finit d'expliquer les règles et dit bien sûr honneur aux filles, galanterie oblige. Ok, du coup comment on fait là? Voilà, enfin c'est le genre de petit exemple où du coup tu te dis si l'institution elle véhicule sans arrêt ce genre de message, forcément qu'est-ce que toi tu vas réussir à faire en 2 heures? C'est hyper important de le faire et j'en suis convaincue, mais je pense que à côté de ça faut aussi rencontrer les adultes, former les adultes, enfin voilà quoi, c'est absolument indispensable en fait.
Ouais, puis c'est vrai que ça pose toujours question, tu te dis en 2 heures qu'est-ce qui est retenu, ça passe hyper vite. Et puis les conditions dans lesquelles on arrive, des fois c'est censé être 2 heures mais t'arrives au début, tu sais pas dans quelle salle tu vas, il y a pas le matos parce qu'il faut quand même qu'on passe un film, du coup c'est censé être prévu mais les gens savent pas du tout, du coup c'est tellement à l'arrache et puis aussi il y a tout un truc où si les jeunes, les élèves ils savent pas ce qui va se passer, ils sont pas forcément intéressés tout ça et du coup peut-être leur en parler un peu plus, sensibilisation qui est hyper importante et que tu sens vraiment la différence quand c'est fait et quand c'est pas fait quoi.
Et nous je me souviens à l'inter en fait c'était l'infirmière qui avait commandé l'intervention et dès le matin elle est restée avec nous en fait l'infirmière pour le coup là. Et en fait on lui dit ils sont un peu prévenus de pourquoi on intervient, de ce qui va se passer tout ça. Elle me dit oui je leur ai donné un petit papier à mettre dans leur carnet de correspondance avec écrit qu'on allait y aller avoir des personnes qui allaient intervenir sur le respect et le sexisme. Je lui dis ok, et l'homophobie, parce que du coup ils ont commandé quand même une journée sexisme, homophobie, me dit ah oui, ah non, ça j'ai pas osé, je savais pas si vous alliez oser y aller. Je dis, si en fait, on va y aller, puis on va même bien y aller en fait. Enfin, on est là pour ça. Et dès le matin, t'es là un peu en mode ah, mais c'est très bien, faites votre boulot, tu vois. Et genre dès le matin, les jeunes sont même pas encore arrivés, que t'es déjà un peu en stress en mode ah, mais attends, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre où est-ce que je suis tombée. Et elle te met un gros coup de pression et t'es un peu waouh, et tu te poses la question de. Comment ils vont se ressaisir aussi de l'intervention derrière, enfin tu vois, parce que c'est cool aussi si du coup le prof principal ou quelqu'un en fait se ressaisit de cette intervention, on pourra en discuter à froid avec eux après et tout quoi. Et je suis pas sûre que ce soit tout le temps fait.
Mais c'est vrai que je pense que rien de poser ce cadre aussi, de respect d'écoute de l'autre, mais aussi de, voilà, dites ce que vous avez à dire, en fait, on est là pour échanger, pas pour vous donner un cours. Je l'ai senti aussi dans les réactions à la fin, parce qu'à la fin, on leur demande qu'est-ce que vous avez pensé de l'intervention, dans les retours, il y a vraiment des retours assez positifs sur ce truc-là, quoi. Et aussi, j'ai participé à une autre asso avant, où en fait, on faisait plusieurs interventions sur... 3 ou 4 fois où on revenait et on était vraiment dans des modes de participation un peu avec des outils théâtraux où on fait intervenir le corps, etc. Et ça, vraiment, ça changeait la donne aussi par rapport à être toujours dans le discours et dans une classe et dans un milieu fermé où ils sont obligés d'aller et peut-être d'installer plus un climat de confiance et un peu à long terme. C'est sûr, et même si c'est pas évident à l'école, dans tout ce que ça représente pour eux, avec des groupes qu'ils ont pas choisis, avec des profs qu'ils ont pas choisis. Enfin voilà, du coup, c'est sûr que c'est un cadre aussi un peu contraint. Dans lequel on s'inscrit.
C'est d'autant plus important dans l'institution scolaire qui est une institution qui véhicule... en fait, c'est encore plus là qu'il faut aller, même si on peut critiquer le fait d'y aller. Moi, je trouve pas, en fait. C'est justement là qu'il faut aller, parce que c'est aussi l'école qui véhicule tout ça. Il y a qu'à avoir les manuels scolaires, enfin, plein de trucs. C'est vraiment...
Mais c'est clair que ça joue hyper tôt, et qu'en fait, nous, en fait, en tant qu'adultes, pour être anime, j'ai souvent bossé avec des enfants, et tu vois, en fait, des animes, en fait, avoir des comportements où, par exemple, on fait un foot ou un basket, et t'entends un anime dire, bon, bah, si les filles marquent, on comptera 2 points, et pour les garçons, c'est 1 point, tu vois. Genre, comme ça, ça valorise, en fait, le fait que la fille marque. Et en plus, le pire, c'est que l'animateur a vraiment l'impression de faire bien, en fait, tu vois, de valoriser. Mais ouais, de valoriser la fille et tout, tu vois. Et toi, tu regardes, genre, en fait, juste tu te rends compte que du coup tu pars d'entrée de jour en disant que la fille est moins bonne que le mec, enfin tu vois ces trucs là derrière, là, genre ah non mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut le prendre. Bah ouais, mais en fait cette image là que tu leur renvoies, c'est pas le fait que c'est trop bien qu'elles aient marqué, c'est le fait que juste elles sont incapables de marquer et que quand elles le font, bah du coup ça peut compter double, quoi, tu vois, c'est un exploit, quoi. Enfin ça, ça se fait avec des enfants qui ont, ouais, qui ont 6-7 ans, quoi. Non seulement ça se construit hyper jeune, mais hyper jeune on leur renvoie en fait cette image là dans la tête, quoi. Et je pense dans tous les, que ce soit en classe et même dans les trucs extrascolaires, quoi, on leur renvoie constamment ça, quoi.
Mais ce que je vois, c'est que ça me paraît important et nécessaire d'échanger avec des personnes assez jeunes avant que le mal soit complètement fait. En tout cas, c'est super agiste peut-être de dire ça, mais et je sais pas où aller d'autre, en fait. Ou c'est que c'est parce qu'on est aussi dans une société où les gens sont séparés selon les âges, et à part les gens de ta famille, tu vois pas d'enfants dans la vie. Enfin, moi j'en vois pas, et c'est à l'école que je peux en rencontrer des personnes plus jeunes aussi.
Après, tu peux, ouais, quand t'es à Nîmes aussi en colo ou dans les centres de loisirs, mais c'est toujours en off, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai ces discussions là avec les jeunes et tout, mais c'est souvent, ouais, quand on est posé et qu'on discute et que du coup ça arrive sur des sujets comme ça, parce que justement je vais les entendre s'appeler tapette à longueur de journée à TPD et tout, et que qu'on va enclencher une discussion là-dessus.
Bon, bah alors on est de retour, c'était un montage fort intéressant, mais du coup un peu long, alors pour en dire des choses, ça va être un peu le bombardement.
Et oui, on va commencer, je vais vous dire un peu les différentes assos qui existent et où c'est possible d'intervenir, si ça vous a donné des idées, des envies. À un niveau national, il y a l'association Léo Lagrange qui existe, également la Ligue de l'Enseignement et SOS Homophobie. Sinon, à Lyon, donc il y a l'association Rimbaud, Filaction, qui est une association contre les violences conjugales, Contact, et aussi Arcade, une association contre les discriminations. À Paris, il y a le MAG, et il y a aussi l'association Virus 36 à Grenoble. Et voilà.
Ouais, sinon du coup effectivement aller dans les assos quand on est plutôt transpédéguine et anarcha féministe, bah ça pose plein de questions. Et du coup moi je sais que mon expérience c'était que il y a eu plein d'interventions quand je faisais des interventions en milieu associatif qui étaient où je les faisais seule parce qu'il y avait pas assez de bénévoles, et du coup c'est clair que par rapport à du coup à la formation qui était donnée par l'association et à ce que j'étais censée dire et aux méthodes pédagogiques que j'étais censée utiliser, bah je pouvais prendre plein de libertés. Et je pense que même à deux, j'ai déjà vécu ça, ce truc de se dire bon bah il y a, enfin voilà, nous on avait le guide de l'intervenant, puis en même temps on faisait des interventions à deux, bah on se parlait sur comment on avait envie de faire l'intervention et qu'est-ce qui nous faisait le mieux. Et du coup je pense même si ça pose plein de questions, voilà, d'avoir des positions plus radicales et d'aller faire des trucs par les assos parce qu'elles ont les portes d'entrée pour rentrer dans les écoles, quoi. Et ben, voilà, c'est, je pense que c'est quand même, si on a envie de faire ça, bah faut pas trop s'inquiéter de ça, parce qu'il y a quand même des possibilités d'avoir une certaine liberté sur le terrain, quoi. Et du coup, je trouvais ça vachement intéressant ce montage par rapport à mon expérience personnelle des interventions. Parce que moi, je me rappelle d'une époque où on nous avait présenté une association canadienne qui faisait vraiment beaucoup d'interventions et qui était censée être du coup assez impressionnante là-dessus. Mais par exemple, elles avaient une méthode qui était vraiment horrible, que moi je trouve vraiment horrible, parce que du coup, ils prenaient juste un gay et une lesbienne, et puis ces deux personnes-là allaient dans les classes et disaient salut, moi je suis lesbienne, et puis l'autre disait moi salut, je suis gay, et puis du coup on va bien, mais du coup vous pouvez nous poser des questions. Et voilà, moi je pense que ça a été assez bien souligné dans ce montage comment c'est, en fait c'est une méthode qui déjà nous fait pas du bien à nous en tant qu'intervenant, parce que du coup il faut que tout d'un coup on soit représentatif, représentative de toute une communauté de gens qui n'est pas forcément hyper communauté en plus, quoi. Et du coup ça c'est hyper difficile. Et aussi j'ai l'impression que un autre truc qui est chiant, c'est que plutôt ça renforce les préjugés, en fait. C'est-à-dire que je veux bien admettre que ça en peut en casser, mais ça en renforce dans le sens où en fait ça peut pas être représentatif de toutes les personnes qui sont homosexuelles, tout ça. Et du coup, de renforcer les préjugés, c'est un truc qui va dans le mauvais sens pour nous, quoi. Par exemple, j'ai un exemple, en fait. On va donner de l'éducation sur les personnes homosexuelles, du coup on va dire pour contrer les préjugés, par exemple, que comme quoi les homos peuvent être soignés et que c'est juste une phase, on va dire que l'homosexualité est innée et que les homos ne choisissent pas, mais en même temps à la fois on est plein à le vivre comme ça, et puis à la fois ben c'est pas le cas de tout le monde, du coup ça fait un truc où je sais pas, ça décrit pas nos réalités
et où on justifie jamais est-ce que l'hétérosexualité est innée ou acquise au fait. Et tout à coup, on doit justifier l'homosexualité.
Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, genre, je trouvais ça intéressant à un moment donné d'avoir découvert que c'était possible de changer de perspective là, et de plus donner des informations sur les homos, et sur les femmes, mais de plutôt essayer de faire en sorte que les jeunes auprès de qui on intervenait, ils changeaient de perspective et ils questionnaient la norme, en fait. Et ça, je me suis rendu compte que ça marchait bien en renvoyant les questions qu'ils pouvaient nous poser. Et du coup c'était pas mal d'utiliser ce truc de renverser les questions. Et notamment il y a un truc qui s'appelle le questionnaire de l'hétérosexualité, qui est trouvable sur internet, je pense. Et c'est un questionnaire, je vais vous lire 2-3 questions. C'est quand as-tu découvert ton hétérosexualité, est-ce que cela a été dur d'accepter ton hétérosexualité, envisages-tu d'en parler à tes parents. Enfin voilà, des trucs qui font un peu tiquer et rire, tout ça, mais en même temps et qui en fait n'ont pas de réponse, parce que globalement les hétéros ils se posent pas ce genre de questions et on leur pose pas ce genre de questions, mais c'est pas des questions qui sont censées appeler des réponses, c'est des questions qui sont censées faire en sorte que les gens auprès de qui on intervient, bah, ils questionnent la norme, et que ça c'est quand même vachement plus intéressant que de se mettre dans un objectif de tolérance, parce que bon, la tolérance ça fait qu'on reste dans un rapport de pouvoir inégalitaire, quoi. Donc voilà, c'est quand même possible d'apporter quelque chose d'un peu radical avec une autre perspective dans ces interventions par ce biais-là, je pense. Même si je pense que toutes les interventions sont un peu des mélanges de toutes les méthodes, qu'à la fois on répond à des questions, puis qu'à la fois on essaye de critiquer la norme.
Mais c'est vrai qu'il y a des assos qui restent sur un registre super légaliste et... d'intégration, et dans un discours de la discrimination c'est mal et ça fait du mal, mais qu'en fait il n'y a pas forcément beaucoup plus de perspectives et de réflexions que ça. Et voilà, est-ce que vraiment ça fait avancer par rapport à ces questions de discrimination et de tolérance, je suis pas toujours sûre.
Ouais, voilà, du coup on n'a pas plus de temps pour discuter malheureusement, mais on a un assez lourd agenda, alors ça c'est super, parce qu'en fait il se passe plein de trucs et ça c'est vraiment super. Alors du coup mais espérons-le, on pourra creuser la question un peu plus des interventions dans une autre émission, parce que ouais, c'est vraiment intéressant et il faut vraiment plein de courage pour faire ça, et du coup bon, c'est vraiment intéressant. Alors l'agenda, tiens, bah, je pourrais me mettre alors du coup l'agenda. Alors, dimanche, on est vendredi, du coup, dimanche, il y aura un rassemblement contre l'homophobie à 18h à République. Mardi 16, il y aura une réunion ouverte à toutes pour s'investir sur le quatrième étage de chez Rita.
C'est à l'attrape-cul, autrement appelé.
Voilà.
C'est ou attrape-queer.
Ce qui est l'étage un peu queer de ce squat chez Rita, qui se situe en face du 23 rue de la Madeleine à Lyon. Et ce sera à 18h cette réunion. Demain, à la Plume Noire, librairie anarchiste, il y a la CGA qui propose une projection d'un film qui s'appelle Les Femmes du Bus 678. C'est à 14h30 et du coup c'est sur les femmes, sur des femmes au Caire en résistance. Et la discussion qui suivra sera en mixité et s'intitule « Viol, violence, quelle réponse anarcha-féministe ?» Donc voilà, et le même jour, du coup demain, il y aura un apéro féministe en non-mixité au local féministe.
Non-mixité, meuf queen trans.
Et c'est 8 rue de la Victoire, c'est ça ?
Ouais.
Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Ah oui, alors mercredi 17, il y aura une projection à l'attrape-cul d'un film qui s'appelle « Dépendance sexuelle ». Que nous n'avons pas vu, donc on peut pas vraiment vous le conseiller, mais bon, c'est déjà une super occasion d'aller chez Rita, et ce sera à 20h, et le dimanche 28, il y aura chez Rita encore la projection du film sur les 400 couverts, qui était un squat à Grenoble, et le film s'appelle Bou, et ce sera chez Rita, encore ça je l'ai dit, à la Canaillerie, à 20h, et enfin, le 27 avril, au Tannerie à Dijon, il y aura une journée post-porn. Et du coup, c'est pas encore hyper déterminé le programme, mais en tout cas, nous, on s'est inclus dedans. Et du coup, il y aura à 16h le 27 avril au Tannerie une écoute de l'émission Ton n'est pas des cadeaux sur le BDSM, bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme. Et du coup, ce sera suivi d'une discussion. Voilà, si on vous le dit avant, comme ça, vous pouvez vous organiser pour venir à Dijon. Je pense que ça va être intéressant.
Ouais.
Et puis, bah, sinon, on se dit à dans 2 semaines pour une émission sur la PrEP, qui est un potentiel moyen de prévention contre le sida, qui est en test en ce moment, mais qui pose plein de questions éthiques. Et on avait déjà fait une émission sur le VIH en décembre. Et on, voilà, ça, c'est, elle est hyper intéressante à réécouter, notamment parce qu'on s'était dit qu'on allait faire un truc sur la PrEP pendant cette émission, puis on n'a pas eu le temps. Et du coup, là, ça remet un peu en perspective. Puis on va creuser le sujet de la PrEP dans 2 semaines. Voilà. Bah, on était ravis de vous avoir. Et puis, on vous dit à dans 2 semaines.
Bonne soirée.
Salut.